Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Et bien aujourd'hui, ça va pas être contre histoire, ça va être contre préhistoire. J'ai découvert l'autopsie des morts célèbres de Philippe Charlier et David Alliot. Ça réserve beaucoup de surprises. Alors, premier chapitre, le Jurassic Park des maladies fossiles. Cramponnez-vous. N'en déplaise à certains, nous vivons actuellement une période de réchauffement climatique.
L'eus-tu cru ?
Dont une des conséquences est la fonte du permafrost qui met au jour des restes conservés depuis des centaines de milliers d'années. Cette fonte concerne le sol, mais aussi ce qu'il contenait, comme des restes d'animaux, des mammouths par exemple, mais aussi d'humains et des végétaux. Plus grave, le réchauffement climatique risque de faire à nouveau circuler des bactéries et virus, et peut-être même des parasites, qui, naguère congelés, pourraient reprendre leur activité au grand air. La région la plus concernée est la Sibérie, avec l'éclatement de bulles de méthane, qui cause d'immenses cratères et met à nu divers restes préhistoriques. De façon générale, on constate une remise en circulation locale dans un premier temps, remise en circulation de ces agents infectieux, mais qui pourraient à terme se répandre à travers la planète. Aujourd'hui, quand on marche dans la toundra sibérienne, on peut arpenter un sol de près de 300 000 ans. Qui contient à foison des restes divers, cadavres d'animaux, restes botaniques, excréments, etc. Autrefois gelé en permanence, le sol est aujourd'hui visqueux et les virus et bactéries s'agrègent aux bottes du marcheur qui, sans le savoir, les rapporte chez lui le soir venu. Avec l'augmentation des températures dans les régions septentrionales, les moustiques prolifèrent de nouveau. Quand on évoque les moustiques, on pense automatiquement au paludisme et à la dengue, mais on ignore tout de ce qu'ils peuvent transporter et transmettre à l'homme dans les confins de la Sibérie. Et que dire des tiques, des poux, des puces, etc., qui sont aussi porteurs de maladies infectieuses. En 2013, une nouvelle a fait sensation. L'équipe de Jean-Michel Claverie à Marseille a mis au jour le Pandoravirus, un virus ancien, inconnu du monde scientifique, probablement contemporain de l'homme de Néandertal, et qui est revenu à la vie à la faveur du bouleversement climatique. Or, les Homo sapiens que nous sommes avons été déshabitués à ces virus. Que se passerait-il si ces agents infectieux étaient la cause d'une pandémie? Nous n'en savons rien. Au niveau local, les paléovirus ont probablement été la cause d'infections auprès des populations isolées comme on peut en trouver dans le Grand Nord. Par exemple, en 2016, une épidémie de la maladie du charbon, l'anthrax, a décimé les troupeaux de rennes en Sibérie. Les deux souches de ce virus étudiées par les scientifiques remontaient au XVIIIe et au début du XXe siècle. Il est vraisemblable que d'autres cas ont existé dernièrement, mais qui ne sont pas parvenus jusqu'à nous. Ce qui est sûr, c'est que cela risque à terme de se répéter dans ces régions. Aujourd'hui, ces infections ne concernent que des troupeaux d'animaux. Mais rien ne dit que certains d'entre eux ne pourraient pas, ou n'ont pas déjà, toucher l'homme. L'extrême isolement de ces populations et leur faiblesse numérique expliquent peut-être que certaines maladies atypiques soient passées inaperçues des scientifiques, voire restent encore indétectables. Pour l'heure, les pays concernés par ces virus préhistoriques sont principalement la Russie, la Mongolie, la Chine, les États-Unis, avec l'Alaska et les pays scandinaves. Mais imaginons un instant ce qui se passerait en Antarctique, continent autrefois tropical, si le réchauffement venait à se poursuivre. Une possible bombe à retardement infectieuse. Car même isolées, ces régions ont une activité économique, mines, pétrole, gaz, etc. Et scientifiques. Ces zones sont potentiellement dangereuses et devraient faire l'objet de restrictions de circulation. Il est indispensable que des précautions sanitaires drastiques soient prises pour éviter une éventuelle propagation. C'est pour cela qu'il faut déconseiller aux touristes de se rendre dans ces régions avec un équipement inadéquat et tout faire pour éviter la chasse aux ossements à main nue ou presque, car c'est le meilleur moyen d'importer des maladies dont on ne sait rien, ou si peu. On tremble à l'idée d'un touriste chinois qui partirait à la chasse aux ossements de mammouth dans le grand nord sibérien et qui ramènerait des virus inconnus dans une grande métropole comme Shanghai. Les conséquences pourraient être apocalyptiques. Aujourd'hui, c'est un risque théorique, mais avec le réchauffement climatique qui s'accélère, la pandémie n'est pas impensable. Il faudra développer rapidement des antibiotiques, des antiviraux, des vaccins. Pire, certains apprentis sorciers se rendent dans ces régions pour rapporter virus et bactéries qu'ils bidouillent à leur domicile, un peu comme faisaient les pionniers de la Silicon Valley dans les années 70, avec du matériel acheté sur Internet. Ces biologistes de garage, ou biohackers, comme on les appelle, s'intéressent à des virus dangereux, hors de tout cadre légal. Si certains d'entre eux souhaitent sincèrement faire progresser la science, d'autres sont davantage motivés par l'appât du gain. Et on tremble également à l'idée d'une mauvaise manipulation, d'une erreur, ou pire encore, de ce que pourraient faire des groupes terroristes en propageant des virus bricolés par leurs soins et dont on ignore tout. Au fil des millénaires, l'homme a continué d'évoluer alors que ses virus et bactéries sont restés identiques. L'homme moderne a perdu l'habitude de se défendre contre ses agents infectieux et toute la réserve immunitaire acquise au fur et à mesure des générations a complètement disparu. Toute proportion gardée, ce choc biologique pourrait être de la même équivalence que lors de la rencontre en 1492 entre les Européens et les Indiens d'Amérique centrale. Les virus de l'Ancien Monde ont décimé les populations des Amériques qui n'étaient pas immunisées contre eux. Les virus, bactéries et parasites présents dans le Grand Nord sibérien sont facilement identifiables. On connaît bien leur morphologie. Si le permafrost les a très bien conservés jusqu'à présent, ils ne sont pas jugés pour l'instant contaminants, faculté qu'ils semblent avoir perdue avec le temps. Pourtant, à l'intérieur, tout n'est pas mort, loin de là. S'il n'est pas impossible que les virus perdent en intensité avec la congélation, Les bactéries, elles, semblent bien vivantes. L'épidémie de charbon, qui a décidé les rennes en Sibérie en 2016, a été foudroyante et totale. Récemment, les scientifiques russes aurait réussi à faire germer une graine âgée de plus de 20 000 ans. Si une graine survit au permafrost, les virus le peuvent aussi. Pendant des décennies, voire plus, les travaux des archéologues se sont concentrés sur les monuments, des outils et autres artefacts mis au jour. Les corps exhumés étaient souvent laissés de côté, brièvement examinés et la plupart du temps réinhumés sur place. Avec la progression des techniques scientifiques, l'étude des corps retrouvés gagne en importance. Les diagnostics hâtivement établis, naguère, sont maintenant revus et corrigés. C'est ainsi qu'on a découvert que certains corps momifiés, présentés comme morts de la variole, était en fait décédé des suites d'une hépatite B chronique. À l'inverse, on a aujourd'hui la certitude que certains cadavres portent des signes de la maladie de la variole à une époque où on la croyait pourtant absente. Contrairement à ce que l'on imagine, lorsqu'une personne meurt, les agents infectieux, bactéries, virus et parasites peuvent lui survivre. Souvent, ils se mettent en sommeil, attendant qu'une opportunité, climatique ou autre, permette leur réveil. Un sommeil qui peut durer des siècles. C'est pourquoi de tels restes sont à examiner avec de grandes précautions. On imagine que les pires virus de la planète, la variole, la grippe espagnole, etc., sont à l'abri dans des laboratoires ultra sécurisés. Mais rien n'est moins sûr, car il est théoriquement facile de récupérer le virus de la variole sur le squelette d'une personne qui en serait morte. Et que dire des explorateurs polaires décédés à la suite de la grippe espagnole et dont les corps enterrés dans les zones froides sont inexorablement en train de fondre ? Il n'est pas exclu que l'on assiste à une renaissance de cette pandémie. Quand on connaît les ravages qu'elle a engendrés au début du XXe siècle, on est en droit de s'inquiéter. Autre source d'angoisse. Depuis plusieurs années, on remarque que certains corps humains ne se décomposent plus. Avec l'ingestion d'aliments remplis de conservateurs et la grande présence d'antibiotiques dans les traitements médicaux modernes et dans la viande ingurgitée, les bactéries responsables de la décomposition et de la putréfaction sont littéralement inactivées par ces substances. En Allemagne, en Autriche, en Suisse, au moment de la réouverture de certaines tombes, notamment pour réduire les corps des générations précédentes et faire de la place aux générations suivantes, on a découvert que ceux des anciens étaient parfois bien conservés, voire intacts, alors qu'ils n'ont reçu aucun traitement funéraire particulier. Et c'est encore pire si ceux-ci ont bénéficié de soins mortuaires comme l'injection de formol qui fixe virus et bactéries, y compris celles en charge de la décomposition putréfaction. Le seul moyen d'éviter de devenir un foyer infectieux pour les générations futures, c'est la crémation. L'ouverture d'une urne funéraire ne cause aucun danger. Autre possibilité, l'inhumation en pleine terre, et non dans un milieu fermé, cercueil ou sarcophage. Un cadavre dans un cercueil plombé est un foyer infectieux potentiel important, alors que dans la terre, le corps est en interaction totale avec la nature et nettoyé par les lombrics, les mulots, l'humus, etc. Être inhumé directement en terre s'avère ainsi beaucoup moins dangereux d'un point de vue infectieux. Et c'est une technique d'inhumation, c'est le cas de dire, qui commence à se répandre, non pas dans sa pratique, mais dans ses possibilités, dans les milieux protestants. Mais je dois dire que je ne connais personne, aucune famille qui ait déjà mis en pratique cette technique. Mais ça demande réflexion. Fort heureusement, certaines autorités commencent à prendre la mesure du risque. Lorsque les scientifiques ou des archéologues découvrent des cadavres ou exhument des fosses communes, il convient d'utiliser des masques et de manipuler les restes humains avec des gants. Dans les zones froides, il devrait être indispensable que les scientifiques soient également équipés d'une combinaison isolante qui les protégerait de tout contact. Après avoir réalisé leurs travaux, leurs ustensiles devront être nettoyés et ou stérilisés, voire incinérés. Et s'il y a le moindre doute, une quarantaine devrait être établie pour éviter toute propagation. Les douanes aussi doivent participer à cette lutte. Il n'est pas rare, en effet, dans les aéroports, de trouver des touristes en possession de restes humains ou organiques qu'ils souhaitent ramener comme souvenir à la maison, ignorant tout du danger potentiel qu'ils recèlent. Il y a quelques années, un touriste américain avait rapporté de son séjour en Europe un crâne et des os humains volés dans les catacombes. Par chance, à Dallas, la douane et le FBI ont intercepté ces restes et les ont renvoyés à leur pays d'origine. Contrairement à ce que l'on pense, un crâne n'est pas composé que de substances minérales. Il y a des restes organiques aussi, cheveux, fibres de collagène, dents, tartres, liquides de putréfaction, parfois même des restes de cerveau. Autant de foyers possibles pour des agents infectieux en sommeil. Ces os et ce crâne, en apparence anodins, recelaient peut-être des virus qui sommeillaient tant qu'ils étaient dans le sous-sol humide des catacombes. Que se serait-il passé s'ils avaient été exposés dans une ville au climat chaud du Texas? On l'ignore. Peut-être son propriétaire serait-il tombé malade des suites d'un virus plus vieux que les États-Unis. Ces précautions ne concernent pas que les scientifiques sur le terrain. Les musées, qui possèdent des collections anatomiques, voire des momies sèches, doivent prendre des mesures pour que les virus présents dans ces restes humains ne puissent pas se propager à l'extérieur. C'est pour cela que la gestion des corps humains doit être laissée à des scientifiques qui sont préparés et habitués à ces manipulations et conscients des risques potentiels. L'étude des corps anciens n'est pas anodine. Ils doivent être examinés avec toutes les précautions d'usage pour éviter de se retrouver dans un mauvais scénario de film catastrophe dont même Hollywood n'arrive pas à imaginer la gravité. Un scénario où la paléopathologie dépasserait la fiction. I'm Et voilà maintenant une histoire de Road Mommy. La momification en bref. Les différentes formes de momification. La décomposition des cadavres est liée à la multiplication des bactéries à l'intérieur de celui-ci, mais aussi à l'extérieur. Toutefois, il existe des circonstances, pas si rares, qui empêchent la putréfaction et la décomposition du corps. La première est un environnement complètement sec, comme le désert égyptien, qui absorbe toute l'humidité du corps, un peu comme une éponge. En effet, il n'y a pas de putréfaction sans eau. Mais cela peut également arriver dans un contexte médico-légal. Un sujet qui décède dans son lit, sur un tapis, une moquette ou au pied d'une climatisation. Dans ce cas, l'absorption de l'humidité empêche temporairement la dégradation du cadavre qui va se momifier. Deuxième possibilité, lorsqu'un corps est déposé dans un endroit extrêmement froid, voire glacial. Ce fut le cas de la momie Otzi, retrouvée dans les Alpes, ou les momies des petites filles sur les sommets des Andes. Il fait tellement froid que les bactéries ne peuvent pas se multiplier et que le corps gèle littéralement. La troisième circonstance possible, c'est lorsqu'un cadavre échoue au fond d'un marécage ou d'une tourbière. Certes, il s'agit d'un environnement humide, mais avec un pH acide et sans oxygène. On parle de milieu anaérobie. L'absence d'oxygène et ce pH très bas empêchent à nouveau la multiplication des bactéries et le corps subit une sorte de tannage, mais pas de décomposition-putréfaction. L'homme Tolund, datant de l'âge du fer, retrouvé au Danemark en 1950, est un bon exemple. Initialement pris pour un cas médico-légal tellement sa peau était intacte, il fut finalement daté du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Sa conservation est si impeccable que nous avons pu identifier récemment des verrues sur la plante de ses pieds. Il existe aussi des momies dites mixtes ou intermédiaires, comme en Sicile à l'époque médiévale et moderne, où les cadavres de l'élite étaient placés par les communautés de Capucins sur des sortes de chaises percées. Et les fluides corporels s'écoulaient alors par les orifices naturels. Puis, les corps étaient suspendus à des branches d'arbres et séchés par le vent, les embruns et les émanations de soufre de l'Etna. Les têtes réduites Jivaro au Brésil et les têtes maories, récemment restituées par la France à la Nouvelle-Zélande, se rattachent à un autre processus de momification, par cuisson à haute température. Les chairs prennent alors l'aspect du cuir et deviennent très difficilement altérables pendant un temps relativement long. Enfin, il y a des momies dites artificielles, comme celles des Égyptiens. Le cadavre est ouvert par un embaumeur, puis les éléments humides à l'intérieur du corps, poumons, intestins, etc., sont extirpés et remplacés par des aromates et des substances desséchantes, bitume ou natron. Pour fixer le corps intérieurement et extérieurement, des bandelettes pour le stabiliser. En Égypte, il n'y a pas un type de momification, mais plusieurs. Pour l'élite, à commencer par le pharaon lui-même, on retire tous les organes sauf le cœur et on utilise le meilleur bitume, le meilleur embaumeur. Et il y a aussi les classes intermédiaires. Quelques organes sont retirés, mais pas tous. Le cerveau peut être laissé. Et le bitume n'est mis que sur le corps, pas à l'intérieur. Les classes inférieures avaient droit à une momification low cost. Aucun retrait des organes et à peine un peu de bitume à la surface du corps. Il ne reste aucun tissu vivant dans la momie. Cependant, à la surface, on retrouve une faune et une flore qui sont stables au moment de la découverte, dans la tombe, mais se multiplient si on retourne la momie, ou pire, si on la change d'environnement, avec le risque de voir la momie se décomposer de façon irréversible. C'est ce qui est arrivé à Napoléon Bonaparte, au retour de l'expédition d'Égypte, lorsqu'il a ramené de nombreuses momies en France. Hors de leur environnement d'origine, qui était sec, et transportées dans un lieu humide, les momies ont commencé à se putréfier. Devant leur déliquescence manifeste, elles ont fini par être enterrées et se trouvent aujourd'hui au pied de la colonne de la Bastille. Oui, oui. Et maintenant, il est temps de se demander qui a tué Lucie. Mort du plus ancien humanoïde. C'est le 24 novembre 1974, à proximité de la rivière Awash, en Éthiopie, qu'a été découvert un squelette relativement complet, 40% des éléments, du plus ancien Australopithèque qui vivait en Afrique, 3,5 millions d'années avant nous. Mis au jour par une trentaine de scientifiques internationaux, dont le paléontologue et paléoanthropologue Yves Coppens, ce fossile AL-288, le plus vieux pré-humain bipède connu, doit son petit surnom à la chanson des Beatles « Lucy in the Sky with Diamonds » que l'équipe écoutait le soir en répertoriant les ossements. Si de nombreux articles scientifiques ainsi que d'abondants ouvrages ont été consacrés à cette découverte, les conditions du décès de Lucy n'ont jamais été évoquées. Or, en 2016, dans une publication dans la prestigieuse revue Nature, le docteur américain John Keppelman, sur la base de l'examen des fractures spiroïdes et donc en forme de spirale, visibles sur les membres inférieurs, cheville droite, genou gauche et supérieur, humérus droit, du squelette, a émis l'hypothèse que Lucie serait morte tombée d'un arbre. Selon lui, elle aurait fait une chute mortelle d'une grande hauteur, 12 mètres selon ses calculs, soit une chute de 56 km/h, sur un sol dur, et elle aurait tendu le bras pour amortir sa chute, d'où la présence des fractures. Cette théorie soulève de nombreuses questions. Si la bipédie de Lucie ne fait pas de doute, cette mort du haut d'un arbre interroge sur ses capacités arboricoles. Est-elle tombée en grimpant à un arbre? Ou bien est-elle tombée dans son sommeil, réfugiée en haut du dit arbre, pour se protéger des bêtes sauvages? La question sous-entendue par cet article était « Est-ce que Lucie pouvait grimper sur un arbre ?» Dans l'ensemble, la théorie est accueillie avec intérêt par la communauté scientifique, même si elle entraîne quelques débats. Yves Coppens a répondu « Les arboricoles sont en général d'une étonnante habileté, agilité, équilibre. Après 20 ans de fréquentation des arboricoles, chimpanzés, gorilles, etc., dans leur milieu naturel, je n'ai jamais vu pareille chose se passer. » Avec Yves Coppens et les auteurs, donc Philippe Charlier et David Alliot, nous nous sommes penchés sur ce cold case paléontologique pour réétudier l'hypothèse du docteur Kappelmann. Pour ce faire, nous avons travaillé sur une copie en résine du squelette de Lucie, conservé au Collège de France. L'original est au Musée national d'Éthiopie à Addis Abeba. Ainsi que sur un double numérique de Lucie, détenu par le Muséum d'Histoire naturelle de Paris, réalisé lui aussi à partir d'un scanner de l'original. Après examen, le squelette de Lucie présente bien des fractures spiroïdes périmortem, c'est-à-dire survenues soit un peu de temps avant ou un peu de temps après la mort, quand le corps était encore humide. Mais il n'est pas évident qu'elle résulte de la chute d'un arbre. L'expérience médico-légale nous apprend par exemple qu'un corps qui est charrié dans une coulée de boue peut connaître des fractures de type spiroïde par un mécanisme de torsion multiple du cadavre. Pour compléter, nous avons aussi étudié le contexte de la découverte du squelette de Lucie, qui a été retrouvé dans une couche stratigraphique, géologique disons, assez remodelée, correspondant probablement à un glissement de terrain. Détail intéressant, au moment de l'exhumation du fossile, Lucie n'était pas seule. Des ossements de nombreux animaux ont été retrouvés auprès d'elle, notamment ceux de crocodiles. Cette conclusion n'invalide pas forcément l'hypothèse du docteur Kappelmann. Il n'est pas impossible que Lucie soit tombée d'un arbre et qu'une coulée de boue ait causé ses fractures peu de temps après sa mort. Les fractures spiroïdes sont différentes s'il s'agit d'un corps frais ou d'un corps ancien, du type momie ou squelette. En l'occurrence, les fractures présentes sur les ossements de Lucie ont été faites sur un cadavre frais. En examinant de plus près le squelette de notre Australopithèque, nous avons constaté deux traces de crocs, visibles sur un os du bassin. Ces traces pourraient avoir été causées par des sauriens, crocodiles et autres, dans la même couche stratigraphique. Cette découverte complexifie encore plus les causes de la mort de Lucie. Lucie était-elle près d'une rivière? Puis a-t-elle été mordue par un ou plusieurs crocodiles qui ont tous été emportés par une coulée de boue? C'est possible. Et cela expliquerait l'absence de certaines parties du corps, sachant que les ossements étaient en outre dispersés sur une large surface. Était-elle vivante au moment de l'attaque? Ou déjà morte depuis peu? On l'ignore. Est-elle tombée d'un arbre et son corps a-t-il été charrié au loin par un glissement de terrain avec celui des crocodiles? Ce n'est pas impossible non plus. Autre hypothèse à ne pas exclure. Lucie aurait été happée par un crocodile et entraînée au fond de l'eau par ce dernier. Si l'on observe les techniques de chasse des crocodiles modernes, mais rien ne dit qu'elles n'ont pas varié depuis des millions d'années, on peut remarquer qu'une fois la proie attrapée, il s'enroule autour d'elle, provoquant la rotation et l'immersion de leur victime dans l'eau, de façon à l'étourdir et à l'entraîner dans le fond pour la noyer, ce qui pourrait expliquer les fractures. Mais peut-être Lucie est-elle morte victime d'un ou de plusieurs prédateurs. Tout simplement. Seule certitude, si elle a été attaquée par un saurien, ce dernier s'est contenté d'un morceau, et le squelette de cet australopithèque n'était pas dans le ventre du crocodile fossile. Ce réexamen nous apprend qu'il est crucial de croiser les analyses. Le travail du docteur Keppelmann est honorable, mais il est concentré sur sa spécialité. Le travail combiné d'un paléontologue, d'un médecin légiste, d'un géologue, zoologue et d'autres scientifiques, ne soyons pas exclusifs. Ce travail ouvre des perspectives plus larges et des hypothèses plus crédibles. On a rarement raison tout seul, et le travail de groupe oblige à se remettre en question. Le cas de Lucie est également intéressant, car il oblige à replacer le corps dans le contexte de sa découverte. Avec la seule analyse du squelette, l'hypothèse du docteur Keppelmann est parfaitement plausible. Mais les données géologiques qui entourent le corps au moment de son exhumation nous en apprennent beaucoup plus, même si elles apportent plus de questionnements que de réponses. Quoi qu'il en soit, le mystère demeure sur les causes de la mort de Lucie. Elle seule connaît la réponse, qui est désormais là-haut, dans le ciel étoilé. Et je vous lis encore une petite note de Philippe Charlier. À titre personnel, j'ai examiné les restes d'Agnès Sorel, la fameuse dame de beauté du XVe siècle. J'avais eu la mauvaise idée de travailler sans masque, la tête plongée dans son urne funéraire. Résultat, une infection pulmonaire et plusieurs mois de surveillance radiologique. Voir les détails dans le livre de Philippe Charlier et de David Alliot, « Quand la science explore l'histoire » chez Taillandier en 2014. Voilà, j'espère que vous n'aurez pas zappé trop vite. Évidemment, cette lecture est un petit peu incongrue par rapport aux autres contre-histoires. Mais pourquoi ne pas s'intéresser à la préhistoire? Parce que ses conclusions peuvent être d'une cuisante actualité. Et oui, le Covid, c'était pas grand-chose. Il peut nous attendre bien pire, m'a dit récemment une infectiologue chevronnée. Merci de votre écoute. Et à très bientôt.